pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Le contrat première embauche était une sorte de contrat de travail au rabais, à durée indéterminée, à destination des moins de 26 ans, prévu par l'article 8 de la loi appelée pour l'égalité des chances, qui n'a finalement pas vu le jour en raison de la très large mobilisation nationale du mouvement contre le contrat première embauche de 2006. Le premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, avait annoncé sa création le 16 janvier 2006, estimant que ce nouveau contrat pouvait inciter à l'embauche des jeunes. Qu'en reste-t-il 20 ans après? Au lendemain du 1er mai 2026, Solidaires organisait une journée à l'occasion des 20 ans du contrat première embauche. Avec des militantes et militants syndicaux, des chercheuses et chercheurs, des témoins de l'époque. Cela se tenait le samedi 2 mai 2026 au campus Condorcet à Saint-Denis. Deux discussions autour des modes d'organisation, l'une lors de la lutte contre le CPE et l'autre autour du détricotage du CDI via le travail précaire, gratuit, imposé aux jeunes. Et c'est sur cette deuxième discussion qu'aujourd'hui l'émission va avoir lieu. En effet, cette discussion s'intitulait « Du SMIC jeune à aujourd'hui ». 30 ans d'offensive contre les droits des travailleurs et travailleuses. Et ce débat était animé par Julie Lemazier, secrétaire nationale de l'Union syndicale solidaire. Bonne écoute.
Donc pour ce débat, on accueille Florence Yadaden, qui est maîtresse de conférence à l'Université Picardie-Jules Verne et spécialiste des politiques de la jeunesse, notamment. Yannick Billiac, qui est secrétaire national de la FERC-CGT et qui était aussi un étudiant mobilisé contre le CPE alors à Sud Étudiant. Lucie Clamins, qui est secrétaire fédérale de Solidaire Étudiant, puisque vous savez sans doute que Sud Étudiant est devenu, enfin, a créé une autre organisation avec la FSE en 2012 et donc maintenant Solidaire Étudiant-Étudiante. Et Anouk Colombani, Sud Culture et Médias Solidaires, et donc également mobilisé contre le CPE à Sud Étudiant en 2006. Voilà. Alors, on va commencer par te donner la parole, Florence. Quels sont aujourd'hui les dispositifs aux moyens desquels on met les jeunes au travail dans la période actuelle ?
Bonjour à toutes et tous. Du coup, moi, je suis sociologue et je travaille sur les politiques publiques de la jeunesse et je les attrape sous l'angle de la mise au travail gratuit, avec l'idée qu'au prétexte de l'insertion, on a fait rentrer les jeunes dans des dispositifs dans plein de domaines qui génère du travail gratuit. Alors, pas toujours gratuit, parfois un petit peu rémunéré, mais je l'appelle quand même travail gratuit parce qu'il a la particularité d'être plus ou moins tout le temps en dehors du droit du travail. Donc, notamment non cotisé, donc sans droit, enfin voilà, sans les protections inhérentes au salariat. En fait, je défends l'idée que vraiment c'est la promesse d'insertion qui les mobilise. Donc, peut-être la première réponse sur c'est quoi les dispositifs, c'est vraiment cette idée de la concurrence pour l'emploi. Et l'idée que pour s'insérer, pour cette fameuse employabilité, donc notion complètement discutable, et voilà, mais tout peut servir. La moindre expérience, le moindre bénévolat, le moindre stage, la moindre expérience avec un public handicapé, tout peut être valorisé au nom de l'insertion. J'ai essayé de lister un peu des grandes thématiques de programmes qui se sont développés. depuis le CPE, mais pas que, qui génèrent ce travail gratuit et qui génèrent cette mise au travail en dehors du salariat. Alors d'abord, évidemment, il y a les politiques d'insertion. Je pense par exemple à l'actuel contrat d'engagement jeune, qui est le programme mis en place Mission Locale et France Travail pour l'insertion des invisibles, entre guillemets. Donc là, la nouveauté en ce moment, c'est l'introduction de la contrepartie, qu'on voit aussi chez France Travail et pour les bénéficiaires du RSA. Mais donc l'idée que pour s'insérer, il faut justifier de 15 à 20 heures d'activité toutes les semaines. Donc activité au sens large, mais en gros, il faut justifier tout le temps de ce qu'on est en train de faire. Et le mieux, évidemment, c'est de travailler. Et donc ça va donner lieu, par exemple, à des immersions en milieu professionnel, qui sont globalement des stages gratuits. Et par exemple, sur le terrain, nous, on voit beaucoup d'immersion en milieu professionnel. Pendant les soldes, à un moment où avoir un peu de main-d'œuvre en plus, ça tombe bien, quoi. Donc là, il y a vraiment, dans ces politiques d'insertion, énormément de travail produit par les jeunes qui n'est jamais reconnu comme du travail, qui est reconnu comme de l'insertion, voilà, de l'accompagnement par le service public de l'emploi. Mais il y en a aussi beaucoup dans le milieu de la formation. Alors, par exemple, du côté des filières professionnelles, où on sait que l'entreprise est en train de prendre de plus en plus de place, notamment depuis la réforme de 2018, avec de moins en moins de place pour l'enseignement et de plus en plus de place pour l'entreprise. Mais aussi tout ce qui est alternance, qui a été énormément promu là, depuis 2018, et encore plus post-confinement de 2020. La multiplication des stages, bien sûr, la multiplication des immersions, des stages d'observation, etc. Donc la formation joue beaucoup aussi dans ce rôle de mise au travail. Nous, on le voit à la fac, évidemment, mais c'est vraiment dans tous les parcours. Et avec aussi cette idée que tout est valorisable sur Parcoursup. Donc il n'y a pas seulement la valorisation vers l'emploi, mais aussi la valorisation vers la formation. Le troisième domaine qui est un peu mon dada, c'est l'engagement, qui est devenu vraiment un grand secteur de mise au travail gratuit des jeunes, avec bon, d'un côté la valorisation du bénévolat, qui n'est pas récente, hein, qui date déjà de la fin des années 90, qui s'est un peu aggravée avec les open badges, tout ce que vous pouvez valoriser du bénévolat de quartier que vous avez fait, qu'on va vous donner des attestations que vous pourrez joindre à votre CV, par exemple. Tout ce qui est aussi participation des habitants, bon voilà, mais c'est un autre domaine qui est moins directement de la politique publique. Là où il y a vraiment de la politique publique, évidemment, c'est le service civique. Pour moi, qui étais une jeune lycéenne militante contre le CPE, j'ai un peu l'impression que le service civique, il est venu compenser la victoire qu'on a cru avoir autour du CPE. Donc le service civique, 500 euros par mois, 600 pour une partie, mais zéro cotisation sociale, pas de droit au chômage à la sortie, aucune protection du salariat. Enfin, tout le monde, je crois, maintenant a compris que le service civique, c'est une bonne main-d'œuvre gratos dans le secteur associatif. Et puis aussi maintenant dans le service public, par exemple, France Travail a dans toutes les agences deux services civiques à minima pour aider les demandeurs d'emploi à scanner leurs documents. Bon, évidemment, c'est une certaine forme d'engagement qui est valorisée, hein, c'est l'engagement. C'est le travail, en fait. C'est pas le syndicalisme, c'est pas le militantisme, c'est pas... Et puis le dernier point, on va y revenir, c'est la militarisation. L'armée est en train de prendre une grande place dans ces dispositifs qui génèrent aussi énormément de travail gratuit. À mon avis, le commun dans tous ces programmes, c'est que y a cette notion de c'est mieux que rien, c'est toujours mieux que rien, le pire étant de ne rien faire. Vraiment la ligne blanche sur le CV qui est devenue maintenant l'oisiveté et le soupçon d'assistanat. Et le point commun de tous ces programmes, c'est de ne jamais reconnaître que les jeunes produisent et de ne jamais les reconnaître comme travailleurs et en même temps d'essayer de le valoriser ensuite. Donc il y a une espèce de paradoxe. Dans le service civique, par exemple, vous êtes supposé recevoir un accompagnement vers votre projet d'avenir. Mais comme personne ne peut reconnaître que vous êtes en train de travailler, puisqu'on est en dehors du droit du travail, ça devient très paradoxal de vous accompagner vers le projet d'avenir sans reconnaître que vous avez acquis de l'expérience et produit. Voilà.
Merci beaucoup. Bah, du coup, ma deuxième question, tu as commencé à l'évoquer, c'est quel rôle joue la militarisation de la jeunesse dans cette mise au travail des jeunes ?
Moi, c'est vraiment mon point central sur lequel il va falloir avoir les yeux rivés dans les années qui viennent. Je pense que vraiment l'armée est en train de prendre une place dans les dispositifs d'insertion et dans les dispositifs d'éducation vraiment de plus en plus importante, avec l'idée toujours qu'il y a deux populations qui est encadrée par l'armée, une population plutôt diplômée qu'on pourrait faire entrer dans les carrières de l'armée au sens très large, et une deuxième population qui est une population qu'il faudrait discipliner. Alors dans les rapports de 2009, post-CPE et post-mouvement suite à la mort de Ziad Ebouna, on trouve l'expression « les jeunes qui ont des projets » en contrepartie des jeunes qui brûlent des voitures. Voilà, je pense que ces deux profils, ils sont toujours très présents dans les politiques publiques de la jeunesse. Je remarque d'ailleurs que la figure du jeune ouvrier ou du jeune travailleur a complètement disparu de ces politiques. Les premiers dispositifs, donc, c'est des dispositifs qui mettent un premier pas dans la carrière, qui sont des dispositifs de pré-recrutement, voire de recrutement. Bon, alors, il y en a plein. Il y a tout ce qui tient de la garde nationale, de la garde républicaine. Mais il y a aussi tout un tas de partenariats éducatifs. Je pense par exemple aux classes défense et sécurité globale. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais donc maintenant l'armée intervient directement dans 1200 classes. Le but est de les doubler dans l'année suivante. Donc 1200 classes dans lesquelles l'armée peut emmener des jeunes en séjour dans une caserne, par exemple, et a les mains sur le programme d'éducation morale et civique. Donc avec des classes mémorielles, on apprend comment on organise une cérémonie d'hommage, enfin des trucs, voilà. Des forums aussi, les forums d'emploi qu'on voit de plus en plus, même dans les cours des lycées, dans les cours, alors évidemment dans les facs, les incitations à aller rencontrer l'armée en permanence. Et puis des partenariats éducatifs, alors pareil dans les facs, le plus grand partenariat éducatif en ce moment, c'est le financement de thèses par l'armée, quand on sait que par ailleurs, il n'y a plus beaucoup de financement de thèses, pas par l'armée. Et sur ce dernier point, sur la question du recrutement, il y a aussi l'énorme investissement qui est fait en ce moment sur la JDC, donc la Journée de Défense et Citoyenneté, notre ancienne journée d'appel, qui est de plus en plus pensée comme une journée de recrutement, avec aussi tout un contexte d'acceptabilité sociale de l'armée, avec rendre l'armée sympathique le plus tôt possible. En gros, on est revenu maintenant à toucher les armes, par exemple, pendant ces journées de défense et citoyenneté. Et on a une séquence de recrutement qui vient juste ensuite. Ça me paraît d'autant plus important que c'est un peu passé à la trappe, mais dans le dernier budget, il y a eu un investissement énorme financièrement sur la JDC, au détriment, par exemple, je ne dis pas que c'est directement connecté, mais d'une suppression importante du budget des missions locales, par exemple. Et le deuxième point, donc, ce sont les dispositifs que j'appelle de disciplinarisation, qui sont plutôt les dispositifs qu'on a tendance à désigner comme des programmes de seconde chance, voire de dernière chance en vérité. Je pense par exemple aux EPID, donc les établissements publics pour l'insertion dans l'emploi. Le D à l'origine c'était défense, mais ils l'ont lissé dans l'emploi. En fait, ce sont des casernes. Alors, ce n'est pas forcément des casernes militaires, mais en tout cas, ce sont des internats dans lesquels on est en uniforme, civil, mais uniforme quand même, et dans lesquels l'armée, en fait, est utilisée à de la formation professionnelle et surtout ces fameux soft skills. Donc, l'idée, en gros, que l'armée va discipliner ces jeunes de façon à les rendre ensuite efficaces sur le marché de l'emploi, avec des partenariats, avec des entreprises qui viennent ensuite un peu faire leur marché auprès de ces jeunes, dont on sait qu'ils ont été bien formés à se lever le matin, faire leur lit et répondre « oui, chef ». Ces programmes sont particulièrement importants dans les départements ultramarins. C'est tout un pan de mes recherches sur lequel j'attire l'attention, puisqu'on ne parle jamais des programmes de politique publique de la jeunesse dans les Outre-mer, où le taux de chômage est particulièrement important, où le contexte social est de plus en plus dégradé et où les possibilités d'amélioration sont extrêmement réduites. L'armée a pris énormément de place dans l'insertion. Finalement, c'est pas la dernière chance, c'est plus ou moins la seule chance. Le RSMA, donc le Régiment de Service Militaire Adapté, a des grands centres dans tous les départements ultramarins dans lesquels on forme des jeunes vers des filières professionnelles en uniforme militaire. Et là, ce sont des formations professionnelles extrêmement genrées. Les filles vont, enfin, vous voyez ce que je veux dire, extrêmement genrées. Pareil, les employeurs viennent directement avec des partenariats choisir les bons profils à recruter ensuite. Enfin voilà, à mon avis, il y a un enjeu très important sur la confusion du rôle de l'armée. On a bien entendu ces derniers temps que l'armée devait nous défendre, enfin voilà, défendre et attaquer. Enfin voilà. Mais par contre, tout ce rôle éducatif et ce rôle d'insertion qui lui est confié sans notre accord n'est jamais évoqué publiquement. Voilà.
Et donc du coup, il y a l'idée qu'il faut externaliser la formation à des institutions qui seraient plus aptes en fait à discipliner la jeunesse, par exemple l'armée, mais également l'entreprise tout simplement. Donc Yannick, le 17 avril dernier, il y a un lycéen en stage de lycée professionnel de 15 ans qui est décédé dans le Gard pendant son stage. Et le même jour, un intérimaire de 22 ans est mort aussi dans l'usine du Rhône de Lustucru. Donc ça, c'est la situation en fait des jeunes au travail. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous faire nous brosser un état des lieux de la situation.
Donc la France est un des pires pays de l'Union européenne sur le nombre de morts au travail. Et les moins de 25 ans sont surreprésentés dans les accidents du travail. Et donc selon l'INRS, Les moins de 25 ans sont 2,5 fois plus victimes d'accidents du travail que la moyenne des salariés. Et toujours, donc, sur les statistiques de l'assurance maladie, 32 travailleurs du régime général, 39 si on ajoute la mutualité sociale agricole, 39 salariés de moins de 25 ans sont décédés en 2023. Et on a tous en tête donc, les deux drames que tu évoquais. Pour les moins de 25 ans, il y a le fait d'entrer dans le salariat par la précarité qui est un facteur de sinistralité. Et moi, je vais surtout insister sur les moins de 18 ans. On a tous en tête les 5 décès de jeunes de moins de 25 ans. Enfin, alors déjà, bon, je parle de jeunes, mais il faudrait arrêter d'euphémiser et parler d'enfants. D'après les normes de l'OIT, en dessous de 18 ans, on doit parler d'enfants. Entre avril et juillet de l'année dernière, 5 enfants sont décédés au travail. Là, il y a encore un enfant qui est décédé au travail. Et le plus jeune des morts au travail en France, c'est un élève de 3e qui était en stage dit d'observation. Et ces chiffres, ils auraient dû alerter sur la dangerosité d'entreprise. Et pourtant, le choix a été fait depuis plusieurs années de renforcer la présence des jeunes en entreprise. Il y a eu l'introduction du stage dit d'observation pour les élèves de seconde générale et technologique, toujours avec le prétexte d'améliorer l'insertion et l'orientation. Alors je dis dit d'observation parce que bien évidemment, quand un jeune se retrouve une semaine ou 15 jours dans une entreprise, il ne reste jamais purement observé, il se retrouve toujours mis sur des tâches de production qui sont parfois dangereuses. Il y a eu la volonté de développer à marche forcée l'apprentissage avec, là pour le coup, de l'argent magique et les aides à l'embauche de 6000 euros pour embaucher des apprentis. Et en lycée professionnel, une des mesures qui était présentée comme étant un peu un des symboles de la réforme Macron-Grandjean, c'était la mise en place de parcours, alors ils ont changé de nom à chaque fois, différenciés, parcours Y, parcours personnalisé, mais des stages en fin de période de bac pro, en terminale bac pro, des stages de 6 semaines en entreprise. Et Carole Grandjean, qui était ministre déléguée chargée du travail et de l'éducation à l'époque, présenter ces stages comme étant une période d'essai. Elle expliquait qu'il fallait que les élèves soient mis dans des entreprises qui recrutaient. Il y avait la volonté assumée d'envoyer les élèves dans des entreprises et une période d'essai de 6 semaines gratifiée par l'État. La gratification de stage est versée par l'État. Et ce renforcement de la place des jeunes en entreprise, avec la fin du redoublement, les élèves de lycée professionnel sont de plus en plus jeunes. 68% des élèves de seconde bac professionnel avaient 15 ans ou moins, contre un quart seulement en 2005. Donc les élèves ont rajeuni et sont envoyés de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps en entreprise. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les travaux de recherche de Prisca Kargois, de Zoé Rollin, des sociologues qui travaillent justement sur les jeunes en apprentissage et en lycée professionnel, montrent que c'est des jeunes qui ont le sentiment qu'on leur a volé leur enfance. Et effectivement, quand ils passent du collège à l'apprentissage ou au lycée pro, il y a une injonction qui leur est faite de devenir adultes, de se comporter comme des jeunes salariés. Et donc c'est des témoignages d'apprentis esthéticiennes qui disent « On vous lance dans un monde adulte, dans le monde des grands. J'ai l'impression de ne pas être passé par la case ado. J'ai l'impression d'avoir vieilli en seulement 3 ans, en 3 mois. Je suis vraiment passé d'une élève de 3e à une salariée en 3 mois. » Et c'est vraiment des jeunes à qui on demande, à partir de 14 ans, 15 ans, de se comporter comme des mini-adultes. Et c'est assumé, parce que le président de la Chambre des métiers et d'artisanat donc d'Alsace, une structure qui organise l'apprentissage dans le milieu d'artisanat, expliquait que l'apprentissage remplaçait le service militaire. Et donc c'est ce qu'on parle, on va de savoirs psychosociaux. Et lui, il avait une méthode assez pratique, c'est qu'il formatait les jeunes à coups de claque derrière la tête. Un artisan charcutier qui prenait des apprentis. Et il en prenait assez régulièrement. Les accidents du travail là, ont montré la dangerosité, la partie visible de la dangerosité. Il y a aussi toute une exposition aux produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Juridiquement, les mineurs devraient être plus protégés. Un, parce qu'ils sont en formation. Deux, parce que ça a plus de conséquences sur leur corps, parce qu'ils sont adolescents. En réalité, les jeunes en formation professionnelle sont surexposés aux produits toxiques parce que les tâches qui leur sont confiées, qui sont souvent des tâches dévalorisées, bah, ça va être du nettoyage de chantier, donc une exposition aux poussières, nettoyer l'atelier en menuiserie, dégraisser des pièces avant la soudure, ou faire les shampoings et les colorations en coiffure. Donc les tâches qui leur sont confiées par l'entreprise les surexposent. Ensuite, il y a aussi toute une exposition à des risques, on va dire, émotionnels. Il faut imaginer que ces enfants, qui à partir de 14 ans vont se retrouver dans l'entreprise, vont se retrouver, par exemple, dans des stages en EHPAD, dans les métiers du soin et du lien, à faire des toilettes mortuaires. Et il y a un troisième aspect aussi, c'est toute la question des violences sexistes et sexuelles au travail, qui pendant longtemps était un angle mort. Les jeunes sont catapultés dans un monde d'adultes et ils se retrouvent exposés à plus qu'un salarié au risque de violences sexistes et sexuelles au travail. Il n'y a pas de données statistiques en France. Unia, un syndicat suisse, a fait une étude. 33% des apprentis qui ont témoigné témoignent avoir été victimes de harcèlement sexuel. Quand on regarde dans la presse, on voit quelques situations qui ont été jugées avec des condamnations de chefs d'entreprise pour des expositions, et des expositions qui sont systémiques. Et là, on a eu une petite avancée, c'est la prise en compte de cette question des VSST dans les VARS, dans les programmes de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, mais en première année de bac. Ce qui veut dire que certains élèves sont déjà allés en entreprise en quatrième, en troisième, en seconde, au moment où arrive cette prévention des VSST. Dernier sujet, il y a une étude qui est sortie au niveau du CEREC. On pense beaucoup à la jeunesse qui se retrouve en entreprise parce qu'elle est en formation. Il y a aussi toute une partie de la jeunesse qui se retrouve dans l'entreprise pour financer ses études. On pense beaucoup à la question des étudiants salariés, qu'on a beaucoup porté à l'époque à Sud-Étudiants. On s'est rendu compte aussi qu'il y a énormément de lycéens qui travaillent pour financer leurs études. 25% des lycéens en général et 33% des élèves de lycée professionnel ont une activité salariée pour financer leurs études. Et donc on voit que la question du salaire socialisé pour permettre à la jeunesse de se consacrer à ses études reste toujours d'actualité.
Ah, merci beaucoup Yannick pour cet état des lieux. Donc tu as commencé à évoquer les revendications qu'il faudrait porter par rapport à cette situation. Le gouvernement va mettre l'accent sur renforcer la prévention. Voilà. Est-ce que c'est ça la solution ou est-ce que tout simplement en fait est-ce qu'il faut dire que la place des enfants n'est pas au travail et qu'il faudrait diminuer, voire supprimer ces stages et ces passages dans l'entreprise. Donc quelles revendications est-ce qu'il faudrait porter et puis surtout comment les porter, comment est-ce qu'on essaie de les porter de façon unitaire pour essayer d'obtenir des avancées?
La première chose, c'est qu'il faut déconstruire le discours dominant. Cette augmentation de la place des enfants en entreprise, elle s'est faite sous une pression idéologique du patronat. Et depuis les années 80, il y a toutes les campagnes que fait le MEDEF pour discréditer l'école et particulièrement l'enseignement professionnel. Et on peut citer la campagne du MEDEF de 2017. Si l'école faisait son travail, j'aurais un travail. Et le MEDEF porte cette position d'un point de vue très idéologique. Parce qu'en même temps, quand le MEDEF interroge ses entreprises, 94% des entreprises pensent que les stages sont bons pour les élèves. 75% des entreprises pensent que les stages sont bons pour l'entreprise. Dans les faits, 45% des entreprises accueillent régulièrement des élèves et près d'un tiers ne souhaitent pas s'engager dans cette démarche. Donc on voit aussi que là, c'est une position très idéologique qui est portée par le MEDEF. Et je pense que nous, notre responsabilité, c'est aussi de déconstruire ce mythe de l'entreprise formatrice. L'avantage d'insertion de l'apprentissage, qui est souvent mis en avant par les politiques, il repose sur le fait que l'apprentissage repose sur le fait d'avoir un contrat de travail. Donc toutes les discriminations à l'embauche que rencontrent les lycéens à la sortie du lycée professionnel sont avancées dans la recherche du contrat d'apprentissage et les populations les plus fragiles, issues des quartiers, issues d'immigration ou en situation de handicap, sont exclues du contrat de travail et du contrat d'apprentissage. Les stages d'observation n'ont aucun intérêt pour favoriser l'orientation, parce que contrairement à ce que pense Jean-Pierre Farandou, ça n'ouvre pas les horizons des jeunes. Les stages, ils sont majoritairement trouvés par les réseaux familiaux. Et donc, c'est une machine de reproduction sociale. Et on ne forme pas mieux sur le tas. Moi, je suis prof de lycée professionnel. Dans un lycée professionnel, on va apprendre aux élèves à travailler sur l'automobile, sur des pannes de plus en plus complexes, dans un atelier pédagogique qui est sécurisé. En stage, ils vont être dans une chaîne de garage rapide, où ils vont changer des plaquettes de frein pendant les 6 semaines de stage. Donc on voit bien que 2 semaines à changer des plaquettes de frein, 6 semaines à changer des plaquettes de frein, 12 semaines à changer des plaquettes de frein, ça n'a aucune plus-value pédagogique. De la même façon, en coiffure, dans un atelier pédagogique, les élèves vont travailler sur des têtes de mannequins, mais vont faire de la coiffure. Dans un salon, ils vont se retrouver à faire des shampoings, à faire du balayage. Je pense que la priorité, c'est aussi de casser cette idée de l'entreprise qui est un meilleur cadre. Je pense qu'une majorité des organisations portent la question d'une scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. Donc, il faut gagner aussi les moyens de faire en sorte que les conditions d'études et les conditions de financement permettent d'éviter les sorties précoces du système scolaire, ce qui permettra d'obtenir l'interdiction d'apprentissage avant 18 ans, évidemment la suppression des stages dits d'observation de 3e et de 2e générale et technologique. On a réussi un peu, ces dernières années, à faire sauter un peu la chape de plomb, tant que ce n'était que des élèves de lycée professionnel ou des apprentis qui étaient exposés au risque, il y avait quand même un certain silence médiatique. Le fait qu'un élève de 2e générale et technologique soit décédé l'année dernière, Je pense qu'il y a un aspect de classe qui faisait qu'on pensait que c'est normal. C'est le fameux « c'est le métier qui rentre », qui fait que le fait que des apprentis ou des lycéens pro meurent, c'était normal. Là, le fait que ce soit un élève de seconde générale technologique, je pense que ça a fait sauter le silence médiatique qui entourait cette situation. Il reste maintenant à gagner des chiffres précis. Il n'y a aucune enquête en France sur le nombre de VSST sur des jeunes en formation. C'est impossible dans les statistiques de la sécurité sociale de pouvoir distinguer les apprentis des autres jeunes de moins de 25 ans. Bien évidemment, il faut renforcer la prévention. Là, par exemple, Jean-Pierre Farandou a demandé est-ce qu'on donne une brochure et qu'on lise un texte aux élèves avant qu'ils partent pour la première fois en entreprise. On ne peut pas faire porter sur des jeunes de 14 ans, de 15 ans, la responsabilité de leur sécurité. C'est le fait de les placer en entreprise qui les met en danger. Mais malgré tout, la prévention ne peut pas être un bouclier magique, mais il faut renforcer la prévention. Et dernière chose, en même temps qu'on poussait les jeunes à être de plus en plus en entreprise, il y a toute une série de protections légales qui ont été supprimées. 2015, décret Rebsamen, le rôle de l'inspection du travail a été supprimé, et donc on a pu envoyer les jeunes sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail. 2018, la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, loi très mal nommée, a permis de rapprocher le contrat d'apprentissage du droit commun. Donc il faut revenir aussi là-dessus, sur tous les assouplissements qu'il y a eu sur le droit des apprentis. Ensuite, il y a une revendication, c'est, nous on appelle ça un équivalent droit de retrait pour les stagiaires. Les jeunes en formation, apprentis ou lycéens professionnels, ont besoin de la période en entreprise pour valider leur diplôme. Donc on se retrouve avec des situations où quand un jeune dénonce une situation qu'il a vécue, qui peut être de racisme, de conditions de formation inadaptées, de violences sexistes et sexuelles, il prend le risque de perdre la petite gratification qui est versée par l'État et de devoir rattraper ses périodes en entreprise pendant ses vacances. Nous, on demande que, dans toutes ces situations, il y ait une dérogation légale pour permettre de valider le diplôme avec moins de semaines de stage et que la gratification ait continué à être versée par l'État. Il faut une politique de sanctions ferme par l'État, ce qui veut dire redonner des moyens et du pouvoir à l'inspection du travail, parce qu'on peut mettre le cadre législatif le plus contraignant possible. Si l'inspection du travail n'a pas les moyens de se déplacer pour aller vérifier les situations, ça restera des protections de papier, pas des protections réelles. Sur comment le porter, c'est ce qu'on a commencé à faire avec la CGT, la FSU et Solidaires. C'est essayer, bien évidemment, de le porter dans l'unité la plus large. Cette question-là ne peut pas être portée que par les organisations de l'éducation nationale. Elle doit aussi être portée par l'interprofessionnel.
Gattaz avant moi,
y a eu Célière avant lui,
le gratin du patronat, les quais d'or de l'industrie.
Nous on en a plein les fesses d'être matraqués par l'État,
qui accapare nos richesses pour engraisser les parias.
Je chanterai 10 fois, 100 fois,
j'hurlerai pendant des mois,
je crierai sur tous les toits, entre les huîtres et le foie gras.
Assister, tu m'auras pas.
En France, il y a bien trop de normes, soyons plus libertariens.
Et entamons des réformes pour secouer les bons à rien.
Vivement que grâce à l'IA, y ait plus besoin de salariés.
Hâte de voir les syndicats chialer sur Tchat CGT. Je chanterai 10 fois, 100 fois.
J'hurlerai pendant des mois.
Je crierai sur tous les toits, au volant de ma Tesla.
Syndiqué, tu m'auras pas. Manifestons, camarades, pour défendre notre pèse, et formons des barricades avec nos nobles Louis XVI.
Ah, tu peux trembler, smicard.
On va te bouffer tout cru.
Ouais, c'est bientôt le grand soir.
Le MEDEF est dans la rue.
CGT, t'es foutu. Le MEDEF est dans la rue. CGT, t'es foutu. Le MEDEF est dans la rue. Solidarité avec Patrick Pouyanné. Solidarité avec Vincent Bolloré.
On est là, on est là, on est là,
on est là.
Même si Mine ne veut pas, nous on est là. Pour le bien des actionnaires et pour qu'il y ait moins de fonctionnaires. Même si Mine ne veut pas, nous on est là.
Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'héritiers.
Rasky, si tu savais.
Thank you.
taquille, tac taquille, crasse-qui, si tu savais, tac taquille, où on se la met.
Aucune imposition, oui, à l'optimisation.
Vous n'aurez pas notre peau, nos bonus, nos retraites chapeaux.
Car le marché triomphera et Reagan ressuscitera.
Mais en attendant, on chante bien au chaud dans notre holding.
Cette goguette du CAC 40
que t'écoutes dans ton camping.
Je chanterai 10 fois, 100 fois.
J'hurlerai pendant des mois.
Je crierai sur tous les toits,
sur mon yacht au Panama.
CGT, CGT, tu m'auras pas.
Et nous poursuivons l'écoute de cette émission à l'occasion des 20 ans du contrat première embauche. Et c'est un débat qui était organisé par l'Union syndicale solidaire au campus Condorcet à Saint-Denis. Et le thème de ce débat était du SMIC jeune à aujourd'hui, 20 ans d'offensive contre les droits des travailleurs et travailleuses et précaires.
On l'a dit plusieurs fois, c'est vraiment une fausse idée de penser que les lycéens, les étudiants ne connaissent pas le monde de l'entreprise, puisque tout simplement, en fait, ils n'ont pas les moyens de se passer du salariat étudiant pour vivre pour la plupart d'entre eux. Lucie, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les réalités des étudiants salariés aujourd'hui ?
Oui, comme ça a effectivement été dit, aujourd'hui, il y a un peu ce mythe que les étudiantes et étudiants ne connaîtraient pas le marché de l'emploi, ne connaîtraient pas le travail. Ça, c'est un mythe qui est notamment promu par le patronat et par le gouvernement pour pouvoir justifier de politiques de précarisation pour nous pousser apparemment à l'emploi. Mais effectivement, c'est le marché du travail, en fait, on le connaît, puisque la réalité, c'est que s'il y a quelques dizaines d'années, il n'y avait que 20% des étudiantes et étudiants qui travaillaient à côté de leurs études, aujourd'hui, c'est un étudiant, une étudiante sur deux. Donc aujourd'hui, en fait, on est majoritaire à travailler à côté de nos études. Et ce n'est pas une évolution culturelle. Ce n'est pas uniquement parce qu'on nous a dit qu'il faut travailler. Alors oui, effectivement, c'est parce qu'on nous dit que c'est bien pour Parcoursup, que c'est bien pour mon master, que c'est bien pour tout ça. Mais c'est surtout parce que c'est une contrainte économique. Parce qu'aujourd'hui, véritablement, on n'a plus le choix. Nos conditions de vie, nos conditions d'études, elles se dégradent fortement. Ça va, en fait, avec toute une politique gouvernementale de tous les derniers gouvernements, hein, d'ailleurs, hein, gouvernement de droite ou socialiste, ils ont mené exactement la même politique là-dessus. Ça a été l'augmentation, par exemple, des loyers CROUS. Par exemple, c'était 3,5% en 2024, 3,26% en 2025. Ça a l'air rien, mais en fait, il y a certains endroits, par exemple à Nantes, où un loyer CROUS, c'est quasiment parfois même plus cher que ce qu'on peut trouver dans certains endroits. Et on a des loyers CROUS qui peuvent aller jusqu'à 800-900 euros. En fait, c'est quasiment impossible aujourd'hui de se loger dans certaines villes. Je ne parle même pas de Paris et des grandes métropoles. C'est aussi une politique qui est effectivement raciste. On pourra peut-être en reparler, mais les frais d'inscription différenciés, là, c'est Bienvenue en France 2 qu'on est en train de se manger. Donc, il y avait déjà Bienvenue en France 1 qui visait à ce que les étudiants, du coup, extra-communautaires payent plus de 3000 euros l'année de licence et plus de 4000 euros l'année de master. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est 20 euros par jour. Pour une année de licence, ce que ça représenterait pour un étudiant extra-communautaire. Bon, maintenant, comme certaines facs exonéraient encore là-dessus, ils veulent l'imposer à tout le monde. Donc, il faut savoir que oui, on est attaqué sur nos droits, mais tout le monde n'est pas attaqué de la même manière. Et les étudiants extra-communautaires sont particulièrement visés, parce que c'est une politique antisociale, mais aussi raciste. Mais dans la politique antisociale, par exemple, on a la CVEC, que nous, on combat, on a toujours demandé son abolition, et elle augmente d'année en année. Alors c'est parfaitement injuste parce que tout le monde paye ça, sauf les boursiers, mais tout le monde paye exactement le même montant. Ça sert généralement à financer des soirées médecine à 16 000 euros où c'est des nids à violences sexistes et sexuelles. Il n'y a aucun contrôle là-dessus, mais ça permet d'éviter que ce soit l'État qui paye les projets des associations. Enfin, associations, on s'entend. Par exemple, aussi les bourses, c'est le truc magique du gouvernement pour dire « Regardez, tout le monde peut accéder à la fac ». En fait, depuis 2020, on a perdu 100 000 boursiers. Pourquoi ? Parce que les critères se sont restreints. On a enlevé des choses comme le point d'éloignement. Avant, quand vous quittiez votre foyer familial et que vous alliez à l'autre bout de la France, vous aviez un point supplémentaire, ça a été enlevé. Et donc aujourd'hui, on a perdu 100 000 boursiers à cause de ça. Les critères se sont restreints. Par ailleurs, les bourses, elles n'ont pas augmenté. Évidemment, il y a de l'inflation, mais les bourses, évidemment, ça ne suit pas. Il faut savoir que la moyenne aujourd'hui d'une bourse, c'est 633 euros. Donc essayer de vivre avec un loyer, plus les courses, plus tout, en fait, à 633 euros, c'est à peu près la moyenne que vous pouvez avoir. Et puis, évidemment, c'est sur 10 mois, parce que ça part directement du postulat que, de toute façon, juillet-août, les étudiants vont travailler. Alors, oui, de fait, aujourd'hui, l'immense majorité des étudiants travaillent juillet-août, mais ça part déjà du postulat que va y avoir besoin en juillet-août, le patronat va avoir besoin, notamment pour la restauration, d'une main-d'œuvre exploitable, quasiment gratuite, pour pouvoir faire tourner pendant que certains travailleurs travailleuses sont en vacances. Bon, bah, très bien, on a les étudiants. Donc on voit déjà cette logique de nous pousser à l'emploi dès le début. Pour faire un peu le parallèle aussi avec la logique des personnes au RSA qu'on pousse dans cette politique un peu d'activation, il y a exactement la même chose pour les étudiants. Les bourses, elles sont conditionnées à une chose, à la présence. Parce qu'on part du principe que sinon, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Il y a toujours un peu ce truc très suspect, les étudiants, mais est-ce que vraiment ils bossent ? Est-ce que franchement, bon, ils passent pas leur temps à dormir ou à regarder des séries Netflix ? Il y a vraiment cette idée qui reste et le contrôle de la présence va avec ça. Par ailleurs, quelque chose qui a augmenté depuis les dernières années, c'est le nombre d'étudiants dans le privé. Aujourd'hui, un tiers des étudiantes et étudiants sont dans des écoles privées. Les écoles privées, c'est pas gratuit du tout. Les écoles privées, c'est hors de prix. Donc beaucoup d'étudiants ont des prêts à rembourser, avec du coup des taux qui d'ailleurs ne cessent d'augmenter de plus, même si l'État essaye d'encourager ça avec une politique à taux zéro. Mais du coup, beaucoup d'étudiants se retrouvent avec des frais d'inscription à 3 000, 4 000, 5 000, 7 000 euros. Donc ils sont obligés de travailler aussi pour pouvoir payer leurs écoles. Et ça, c'est à cause de la sélection renforcée, Parcoursup, etc. Ça va avec toute la sélection accrue. Résultat, aujourd'hui, il y a un étudiant, une étudiante sur trois qui vit avec moins de 50 euros par mois, une fois les charges payées. Voilà, donc pour vous donner un peu une idée, un étudiant, une étudiante sur trois saute des repas régulièrement et plus de la moitié des étudiants, donc, est obligé de travailler pour payer leur logement. Toutes ces conditions, ça va nous obliger à aller bosser en entreprise et ça fait qu'aujourd'hui, le travail salarié, c'est la première cause d'échec en licence. C'est la première raison de pourquoi on rate nos études, c'est à cause du travail salarié. Mais en fait, c'est un truc qu'on comprend très simple. Hein, quand on travaille le soir, quand on travaille le week-end, de fait, on n'a pas le temps pour réviser, on est obligé de parfois rater des cours. Et cette pression économique, ce travail vers un salarié, ça va nous introduire à faire plein de choix. Donc par exemple, 30% des étudiantes et étudiants renoncent à l'établissement de leur choix à cause de la précarité économique. 22% envisagent de raccourcir leurs études. Et souvent, quand ils ne raccourcissent pas leurs études, c'est pour choisir des formations dites rentables immédiatement, donc c'est-à-dire l'alternance, justement, ou des stages. Et puis, quelque chose qu'on a commencé à aborder, mais le rôle des étudiants pour le patronat, c'est donc une main-d'œuvre qui est bon marché, qui est flexible. Pourquoi ? Parce que déjà, effectivement, c'est une main-d'œuvre qui va être très peu protégée. On a parlé notamment donc, en entreprise des étudiantes et étudiants. Nous, en tant que syndicat étudiant, on reçoit, ce sont des cas étudiants, donc des étudiants qui nous appellent en détresse. Par exemple, qui nous appellent parce qu'ils ont été victimes de violences sexistes et sexuelles sur leur lieu de travail. Et c'est des étudiants qui vont être complètement abandonnés, seuls, parce qu'ils ont des endroits qui sont peu syndiqués, généralement. C'est généralement des étudiants qui sont dans des écoles privées, parce que c'est des écoles où on va les pousser dès la deuxième année à faire de l'alternance. Donc c'est des endroits très peu politisés, il n'y a pas de syndicats, il n'y a rien pour les protéger. Et par ailleurs, ils se retrouvent face à des universités, des écoles, qui vont complètement protéger l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a des partenariats qui sont en jeu. Et la règle numéro une, on ne touche pas aux partenariats. Alors quand c'est l'armée, il ne faut même pas en parler, alors là. Quand c'est Total, quand c'est Thales, quand c'est des masters transition écologique qui sont financés par Total, ça existe. Bon, écoutez, dans ce cas-là, il ne faut surtout pas s'attaquer à ça. Mais de manière générale, on s'est retrouvé avec, moi je me suis retrouvée accompagnée des étudiantes qui étaient en école d'infirmière et qui disaient, mais surtout, on n'en parle pas parce que y a un partenariat avec l'hôpital, on ne parle pas de ça. Sinon, c'est la fin de l'école. Donc tout ça fait que les étudiantes étant peu protégées, généralement elles sont effectivement très exposées, peu syndiquées et facilement remplaçables, c'est facile, vous avez un étudiant en moins, vous en avez un autre qui arrive directement derrière, la précarité obligeant tout le monde à travailler. Derrière du coup c'est des temps partiels qui sont mal payés, c'est des contrats courts, de l'intérim, du travail non déclaré, beaucoup quand même de travail non déclaré, de l'auto-entrepreneuriat imposé parfois. Et par ailleurs, tout ça, ça tire vers le bas les conditions de travail de l'ensemble des salariés, puisque ça touche les étudiantes et étudiants, mais du coup, ça tire vers le bas tout le monde. Et puis, à ça s'ajoutent les stages. Alors, on disait peu ou pas rémunérés. On a été contents, au 1er janvier, on n'est plus payé 4,35 € de l'heure, on est payé 4,50 € de l'heure. Donc, nous avons eu 15 centimes d'augmentation. Donc, c'est très bien. Même s'il y a beaucoup d'entreprises qui rusent pour ne pas dépasser les 7 semaines de stage, avec plein de ruses qui sont connues des entreprises pour ne pas avoir besoin de gratifier les stages. En stage, on n'a quasiment aucun droit. On n'est pas reconnu comme des salariés. Un droit tout bête qu'on n'a pas, le droit de grève. Au mois de septembre, j'ai voulu faire grève. On m'a dit pas le droit. Donc congé sans solde, c'est interdit. Donc voilà, on n'a absolument aucun droit. Donc des missions qui sont éloignées du contenu pédagogique, on en a parlé, et puis dangereux. Nous, on a encore accompagné il y a 2 semaines une étudiante qui s'était fait électrocuter sur son lieu de travail et dont le patron a maquiller ça pour pas que ça soit reconnu comme accident de travail. Et évidemment, l'université a dit non, mais c'est strictement rien passé. De toute façon, si vous commencez à en parler, on va remettre en question votre année, puisque de toute façon, vous n'avez pas terminé votre stage à cause de ça. Donc, l'étudiante n'a rien dit. Voilà. C'est des choses qu'on voit assez régulièrement. Les étudiants, ils ne sont pas éloignés du travail. Au contraire, on est exposé, surexposé aux formes les plus précaires du travail, puisque nous n'avons quasiment aucune protection.
Face à cette situation, quelles sont vos stratégies de lutte par rapport à cette précarité imposée? Quelles sont vos revendications? Il y a une revendication historique de Sud Étudiants puis Solidaire Étudiants sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous l'expliquer?
Alors, la revendication historique de Sud Étudiants, de Solidaire Étudiants, c'est le salaire étudiant. Pourquoi? Parce que face à, justement, à cette précarité qui est structurelle, enfin, quasiment toutes les organisations étudiantes se sont mis d'accord sur le fait qu'il y avait besoin d'avoir quelque chose de fixe autre que les bourses. Certains parlent de revenus d'autonomie, mais j'en développerai pas, mais en fait c'est le salaire étudiant en moins bien puisqu'il n'y a pas les droits qui vont avec. Donc nous, c'est pour ça qu'on défend le salaire étudiant. Donc en fait, pourquoi? Parce que déjà, on reconnaît que les études, c'est un travail, que ça produit de la valeur et donc que ça doit être rémunéré. C'est important, bien sûr, c'est parce que derrière, on dit que les bourses, déjà, c'est sur 10 mois, ça arrive toujours en retard, c'est absolument pas fiable, ça permet à personne de se projeter sur plusieurs années, vous pouvez absolument pas vous projeter sur 5 ans, etc. Enfin, vous ne voyez strictement rien, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est quand même, on est quand même dans une société où on accepte qu'une grande partie, l'immense majorité des étudiants aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc évidemment, ça, c'est le premier point. Mais c'est aussi que par ailleurs, nous, en plus de cette autonomie financière, en fait, on veut la fin du salariat contraint. On veut une égalité réelle dans l'accès aux études. Et pour ça, on a besoin d'un revenu fixe. Et on a besoin aussi d'être reconnu comme ayant des droits. Aujourd'hui, on parlait des blocages tout à l'heure, mais le blocage, c'est la grève des étudiants. Parce qu'on n'a pas le droit de grève. Parce qu'en fait, on n'a quasiment aucun droit aujourd'hui. Et donc, on a aussi envie d'être reconnu dans la particularité d'être étudiant. Par ailleurs, ça rejoint une vieille revendication de Solidaire, de dissocier le revenu de l'emploi. C'est pas parce que on ne produit rien qui a une valeur concrète, marchande, immédiatement, que pour autant on n'existe pas et qu'on n'a aucun droit. Pour l'apprentissage, on revendique la fin des salaires liés au rabais lié à l'âge. Donc, en gros, pour vous expliquer, aujourd'hui, lorsque vous avez moins de 18 ans, vous êtes payé 500 balles par mois. Quand vous avez entre 21 et 25, c'est 966 €, en gros. Et ça, c'est une aberration. Pourquoi, quand vous êtes payé 18 ans, vous n'êtes pas payé de la même manière que quand vous avez 21 ans, que quand vous avez 25 ans, alors que vous faites exactement le même travail? Même quand vous êtes dans la catégorie haute, vous êtes payé 78% du SMIC. Donc, vous restez en dessous du SMIC, de toute façon, il ne s'agirait quand même pas de devenir riche. Encore moins de vivre dignement. On demande un paiement au minimum au SMIC pour tous les apprentis, contre 60% aujourd'hui. Pour pouvoir réviser en de bonnes conditions, parce qu'en parallèle de travailler, on étudie quand même, on demande au moins 15 jours de congé pour les examens, voilà, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Et une formation obligatoire au droit avant l'entrée en entreprise. Chaque année, Solidaire Étudiants imprime des guides pour l'alternance, pour les stages. Et nous, on a déjà eu la vice-présidence du CROUS qui arrive, qui dit « Mais c'est super, écoutez, si vous avez besoin d'une table pour pouvoir donner vos livrets, etc., si vous avez besoin de faire des permanences, là, on vous autorise à faire des tables syndicales pour ça. » Donc, parce que d'habitude, on est interdit. Écoutez, c'est très bien, vous pouvez, parce que c'est super que vous fassiez de l'information sur le sujet. Ah d'accord, mais parce que du coup, c'est à nous de le faire. C'est-à-dire que si c'est pas les syndicats, si c'est pas les organisations étudiantes qui s'occupent de ça, personne ne le fait. Enfin, c'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des étudiants et étudiantes ne connaissent pas leurs droits en entreprise et généralement viennent nous contacter quand ils ont déjà contacté 50 fois leurs enseignants, 50 fois plein de gens qui souvent ne leur répondent pas ou ne sont pas au courant. La fin du travail gratuit déguisé. Et puis, puisqu'on parlait de l'armée, etc., on demande aussi la fin des partenariats complices. La fin des partenariats tout court avec les grandes multinationales, mais aussi la fin des partenariats complices avec les universités qui participent au génocide, mais aussi avec les entreprises, avec Thales, avec Total, etc. Parce que la particularité de ces entreprises-là, c'est qu'elles ont très bien compris, face à des étudiants qui, dans certains endroits, sont de plus en plus politisés, qu'avec des conditions de travail un peu moins dégueulasses qu'ailleurs, ils pouvaient avoir des stagiaires. Un exemple, Total propose des stages à 1 600 € le mois. Ah bah c'est sûr que quand vous avez le choix entre 4,50 € de l'heure et 1 600 € de l'autre côté, nous on a plein d'étudiants qui disent « Tu vois, ouais, moi je suis écolo, ouais, allez bosser pour Total, j'ai pas trop envie, mais bon. » Enfin voilà, c'est aussi pour ça qu'on demande la fin avec ces partenariats. Je parlerai même pas de Polytech qui est complice en ayant des partenariats avec Thales et qui notamment, Thales qui à Rennes par exemple en début d'année au mois de septembre, a présenté des drones avec armée aux étudiants de Rennes. Donc voilà, ce genre de choses qui est aussi assez régulière. Et donc sur ça aussi, on milite. Donc voilà, pour résumer, nous, on défend l'inverse de ce que défend le gouvernement. C'est étonnant. Voilà, une université autonome, gratuite, accessible. Bref, un réel droit aux études dans des conditions dignes.
Merci beaucoup. Alors, il y a évidemment des secteurs qui sont des laboratoires en fait de la précarité, comme les saisonniers, les travailleurs agricoles, et la culture en fait partie. Donc, Anouk, qu'est-ce que tu peux nous expliquer comment la précarité elle se traduit aujourd'hui dans le secteur de la culture ?
Sud Culture, pour rappeler, est un syndicat qui, enfin, quand on dit culture, on parle des arts et de la culture. On est un syndicat qui brasse à la fois donc tout ce qui va correspondre au ministère de la culture, mais aussi toute cette partie privée, y compris assez invisible, art, culture, mais en fait, du coup, ça va être le tourisme, ça va être la publicité. Enfin voilà, on a tout un tas d'endroits comme ça qu'on ne va pas assimiler naturellement, mais qui en fait sont même une grosse partie en réalité des travailleurs aujourd'hui des arts et de la culture. Peut-être rappeler aussi en lien avec la thématique de la journée que ce que je vais vous décrire alors, n'est pas récent en réalité. Et d'ailleurs en 2006, moi j'étais étudiante à la Sorbonne et en fait on était extrêmement liés à l'époque ce qui s'appelait la coordination des intermittents et précaires, qui a joué un rôle de soutien assez important en fait au mouvement étudiant à Paris, mais pas que, parce qu'elle existait ailleurs. Et donc notamment les intermittents sortaient d'un mouvement qui avait eu lieu en 2003 de remise en cause du système de l'intermittence, qui d'ailleurs n'a pas gagné, et je vais en parler parce que ça a un impact aussi aujourd'hui où on en est en fait des modes de rémunération donc de ces travailleurs du spectacle vivant, du cinéma, etc., qu'on appelle les intermittents. Et plus largement, en fait, tout ce début des années 2000, c'est le moment où on va, alors à la fois par les politiques publiques, type tout ce qui a été modification des financements des ministères, et plus largement la mise en place du système par projet, du financement par projet, de l'associatif, etc. En fait, on va voir se développer les premières étapes de ce qui aujourd'hui crée, enfin nous on n'est même plus au mot de précarité, ce qui crée la pauvreté de l'immense partie des travailleurs des arts et de la culture. Et ça a été assez vite parce qu'en réalité, il y a un élargissement assez important jusqu'aux années 1980. C'est-à-dire, en gros, dans l'après-guerre, il y a plutôt une volonté de développer les établissements culturels, les maisons de loisirs, bon, etc. Tous ces trucs-là, il y a eu un élargissement du système de l'intermittence, qui est donc une forme de rémunération des travailleurs des arts quand ils ne sont pas directement en emploi. Si c'est une branche spécifique de l'assurance chômage qui prend le relais sur le temps, ça s'est plutôt élargi jusqu'aux années 1980. Et puis après, années 90, il y a un entre-deux. Et puis après, il y a une descente aux enfers dans laquelle on est encore aujourd'hui. Alors nous, on a tout un tas de micro-contrats qui peuvent s'appliquer, y compris jusque très tardivement dans la vie, hein, c'est-à-dire pour certains jusqu'à la retraite, qui recoupent un peu ce qui a pu être dit avant. Hein, c'est-à-dire que je reviendrai un peu après sur l'intermittence, mais dont les deux gros contrat de précarité, pauvreté qu'on retrouve dans les secteurs culture et art, c'est un truc qui s'appelle le CDDU, le contrat à durée déterminée d'usage, qui est un truc qui est une dérogation du CDI, alors qui en fait s'appliquait, entre dans le code du travail dans les années 1980, je crois, mais qui va s'élargir à un ensemble de secteurs au fil du temps, et donc y compris au nôtre. En fait, c'est ce qu'on appelle les extras dans la restauration. D'ailleurs, c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure des étudiants qui travaillent dans la restauration, des étudiants précaires dans la culture, des contrats pourris l'été, il y en a des tonnes aussi. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, on subit exactement les mêmes formes de contrats que la restauration. Et donc, ce CDDU, il a cette particularité d'être un contrat qui, donc, comme le CDD est un contrat temporaire, un employeur peut le renouveler autant de fois qu'il souhaite, sans délai de carence, et il n'y a pas de prime de précarité à la fin, les fameux 10% de prime de précarité des CDD. Sud Culture a une énorme explosion du nombre de personnes qu'on accompagne au prud'homme sur ce type de contrat, parce qu'on a des gens qui, en fait, enchaînent 50, 100, 150, 200 CDDU, en l'espace de 3, 4, 5 ans, voire parfois, là, il y a récemment une affaire qu'on a portée au prud'homme, on est sur 90 CDDU sur une seule année. Enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment le contrat principal de destruction, en fait, du CDI, en ce qui nous concerne. Et pour le coup, c'est un CPE, permanent, en fait, le CDD. C'est, enfin, si on devait le renommer, c'est vraiment ça l'idée, quoi. Puisque se joue en permanence le fait que, bah oui, en fait, si vous n'êtes pas à l'écoute, si vous n'êtes pas assez bon, si vous n'êtes pas machin, bah en fait, de toute façon, vous pouvez être non repris n'importe quand. J'ajoute quand même que là où il y a un grand foutage de gueule, c'est que donc le CDDU, il est censé correspondre, c'est pour ça que je parlais des extras, à un accroissement temporaire de l'activité. Et nous, dans la culture, ça fait déjà au moins une dizaine d'années que les accroissements temporaires d'activité, par exemple, ils durent 10 mois. Donc c'est des CDDU de 10 mois. Bon, voilà, quand on est à 10 mois, je le répète souvent, c'est plus un accroissement temporaire d'activité. A priori, ça fait partie de l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement public qui fait appel à nous. L'autre contrat qui est en pleine explosion depuis sa création, qui arrive juste après le CPE, et bon, évidemment après l'élection de Nicolas Sarkozy, et c'est par hasard probablement, c'est donc ce qu'on appelait à l'époque l'auto-entrepreneuriat, qui s'appelle maintenant le micro-entrepreneuriat. De par cette espèce d'idée que la culture, les arts, ce serait un endroit de la création, de l'inventivité permanente. On est un secteur qui est très poreux à l'idée d'entrepreneuriat. Et donc le micro-entrepreneuriat, il s'est imposé d'abord aux travailleurs de la culture parce qu'il y a eu la destruction progressive, notamment beaucoup d'espaces de la fonction publique, mais aussi de compagnies et autres. Et aujourd'hui, ça, c'est vraiment un contrat qui est employé. C'est-à-dire, vous avez des professions, on est à 60-70% de micro-entrepreneurs. Ça va être des professions techniques du spectacle vivant ou du cinéma, c'est-à-dire des gens qui devraient être intermittents, en fait, mais qui sont passés sous le micro-entrepreneuriat. Ça va être des professions où on est à cheval entre culture et tourisme, notamment dans tout ce qui est la transmission culturelle. Mais bon, voilà, c'est vraiment un contrat qui est massivement... Enfin, qui est de plus en plus massivement en fait imposé aux travailleurs de la culture et qui du coup, parce qu'on serait des créateurs, etc., en fait, c'est devenu un espèce de contrat norme. Donc on va retrouver la question des stages, notamment pour les gens qui entrent dans ces métiers, mais les stages quand même, là on est vraiment sur un cliché de... En fait, une grande partie des stages que vous retrouvez dans les associations culturelles, mais aussi dans les établissements culturels publics, c'est pas des stages, en fait, c'est des emplois. Bon, je pense que c'est une vérité un peu générale, mais là, c'est quand même particulièrement marqué. Notamment dans tous ces métiers de la médiation, qui sont un énorme enjeu de la culture qui se veut populaire. Enfin, ils disent pas populaire, le gouvernement, mais qui se veut pour tous, etc. L'enjeu de la médiation, c'est un enjeu majeur, mais en fait, l'essentiel des postes de médiation aujourd'hui, c'est soit carrément du bénévolat, soit des stages. Après, il faut aussi ajouter cet autre contrat qui est un truc qui s'appelle le CDII, CDI intermittent. En gros, c'est une façon d'avoir des saisonniers qui restent attachés à vous, donc c'est une soi-disant protection, mais la réalité, c'est que ça crée surtout du bas salaire. Et puis beaucoup de souffrance, parce qu'en fait, on est quand même sur des gens qui, du coup, se retrouvent souvent à avoir des périodes de travail complètement délirantes. Pendant 6 mois, ils disparaissent. C'est un vrai souci, par ailleurs, pour l'organisation syndicale, parce qu'on a des camarades qu'on ne voit plus pendant des mois, et qui, d'un coup, pendant 6 mois, ont que ça à faire du syndicalisme. Enfin bon, voilà. Mais donc, bon, il y a ce paradoxe. Il y a aussi tous les trucs qui relèvent du droit commercial. Alors, le meilleur exemple, c'est les artistes-auteurs. C'est-à-dire que historiquement, c'était plutôt des systèmes qui émanaient des métiers eux-mêmes qui, pour s'organiser, avaient réussi à faire ouvrir des formes de statut, mais qui, en fait, aujourd'hui, ne sont même pas des formes d'emploi. En fait, on est carrément du côté du droit commercial. Et bon, vous avez vu, là, il y a plein de débats avec la prise de pouvoir de l'extrême droite dans le monde de l'édition, notamment, et en fait, des grandes questions sur la façon dont notamment les auteurs vont se protéger. Mais en fait, la réalité, c'est que les auteurs, comme ils ne sont pas vraiment reconnus à l'intérieur du droit du travail, en tout cas, ce n'est pas par le droit du travail qu'on obtiendra un système qui permettra de les protéger en l'état. Et donc, les artistes-auteurs aujourd'hui, hein, l'immense majorité, donc les artistes-auteurs, c'est à la fois les écrivains, les graphistes, etc., la majorité sont en fait au RSA. Comme ils ne touchent pas de salaire, ce qu'on appelle du droit d'auteur qui relève donc du droit commercial, en fait, ils ont le droit d'avoir le RSA. Mais donc, ils n'ont ni système d'intermittence, ni système de chômage, ni... etc. Et en fait, vous retrouvez tout ce système-là dans tout un tas de micro-métiers de la culture. Et donc, la dernière chose, c'est ce fameux régime intermittent qui est encore aujourd'hui perçu comme un régime très protecteur. Et je pense que là, pour le coup, il y a un vrai débat qui est ouvert, notamment dans... la branche spectacle vivant et dans la branche cinéma de Sud Culture, parce que vu où en est l'intermittence, est-ce qu'elle protège vraiment encore aujourd'hui les gens qui bénéficient de ce régime? On est quand même sur, en réalité, des gens, alors énormément de maladies professionnelles. Quand on est à ce régime, parce que le vrai contrat de travail, c'est un CDDU aussi, est-ce qu'on peut se permettre de dénoncer quand on est victime de violences sexistes et sexuelles? Est-ce qu'on peut se permettre de faire grève? Est-ce qu'on peut se permettre de... Bon, on est vraiment à une étape où, en fait, ce sont des gens qui sont plus protégés, vu le niveau de précarité et de pauvreté que je vous ai décrit, à l'intérieur des mondes des arts et de la culture. Mais en même temps, il y a une telle pression que vous avez vraiment un niveau à la fois de stress et donc aussi de gens qui sortent du travail quand ils n'en sont pas carrément à se suicider, qui est extrêmement énorme et qui pose vraiment des questions sur la limite en fait de ce régime, en tout cas tel qu'il existe aujourd'hui. Et ça, depuis 2006, enfin depuis 2003 et cette grève, il y a eu en fait des réductions progressives hein, sur la façon dont on peut bénéficier du régime. Il faut travailler de plus en plus sur un temps qui est de plus en plus réduit. Et avec tout ce que je vous ai décrit par ailleurs, et notamment le système par projet, ça engendre aussi le fait que vous avez aujourd'hui de toute façon une réduction en fait du nombre d'endroits où on peut, enfin où en tout cas on embauche sous le régime de l'intermittence. C'est plus dur de l'obtenir et les places sont de plus en plus chères. Donc si vous mélangez les deux, en fait ça entraîne énormément de gens qui en fait sont dans une espèce de précarité de l'emploi permanente et qui du coup bénéficient aux autres contrats que je vous ai décrits, notamment le micro-entrepreneuriat, c'est-à-dire des gens qui disent en fait c'est trop compliqué d'être intermittent en étant, je sais pas, en travaillant à la décoration ou je sais pas quoi, autant créer un statut de micro-entrepreneur, en fait ce sera plus simple, je ferai ce que je veux parce que je suis un entrepreneur. Enfin bon, voilà, vous voyez un peu l'idée. Et je termine juste sur une dernière idée, c'est que tout ça entraîne aussi des choses qui posent des questions à nous dans notre organisation syndicale. C'est-à-dire que ce qu'on observe aussi depuis 20 ans, c'est un morcellement très important du secteur, notamment dans les grands établissements publics, où vous allez avoir tous les statuts que je vous ai décrits, ce n'est pas des gens qui sont forcément dans des endroits différents. C'est-à-dire tout ça, vous l'avez au Louvre, à la BNF, enfin bon, Bibliothèque nationale de France, et tout un tas d'autres sites publics. Parfois, sur une compagnie de 30 personnes, vous avez 6 ou 7 formes différentes en fait d'emploi, donc morcellement du secteur d'un côté et puis disparition, vraiment effacement des métiers, dire toute cette idée de la polyvalence qui est beaucoup montée en force aussi dans ces années 2000 et qu'on combattait dans mon souvenir aussi déjà pendant le mouvement CPE, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quelqu'un qui est supposé être chanteur, en fait il est chanteur, graphiste, publicitaire, enfin bon, il est censé savoir tout faire et c'est vraiment extrêmement marqué. Et ça, c'est aussi, mine de rien, l'effet de cette précarité, pauvreté. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez plein de métiers qui ont disparu, en fait, tout simplement. Mais en fait, que vous pouvez tous voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la production d'un CD, parfois, vous avez deux personnes. C'est-à-dire la personne qui chante et qui joue et la personne qui a fait l'enregistrement. Mais enfin, ça, il y a 15 ans, ça n'existait pas. Et c'est pas juste parce que la technologie et les ordinateurs, c'est super. Non, c'est parce qu'il y a une disparition, en fait, des métiers divers et variés, mais qui pose des vraies questions sur la façon dont on conçoit, en fait, justement, donc là, je vais vous donner l'exemple de la chanson, mais qu'est-ce que c'est qu'un texte? Qu'est-ce que c'est qu'une mélodie? Qu'est-ce que c'est qu'un enregistrement? Qu'est-ce que c'est qu'une qualité de son? Comment on dissocie la voix de l'instrument? Et en fait, vous pouvez l'appliquer à tout, c'est-à-dire au cinéma, à la production de séries, au théâtre. On a complètement compressé l'ensemble des métiers au détriment de la qualité de ce qu'on propose et de ce qu'on produit, en fait, culturellement. Et en même temps, la seule ou les deux seules personnes qui travaillent sur un projet ne sont pas pour autant plus riches, voire elles sont plus pauvres que les 10-20 personnes qui servaient historiquement à produire un même objet.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.